qui parle. J'avais de nombreux problèmes. Je voulais un lieu clos, un univers concentrationnaire, et pour le mieux fermer, il fallait que j'introduise, outre les unités de lieu, les unités de temps, étant donné que l'unité d'action était incertaine. Donc ce serait une abbaye bénédictine à la vie scandée par les heures canoniales. Peut-être mon modèle inconscient était-il l'Ulysse à cause de la structure très stricte en heure du jour, mais aussi la montagne magique pour le lieu rocheux et sanatorial où tant de conversations allaient devoir se passer. Les conversations me posaient de gros problèmes que j'ai résolus en écrivant. Il est une thématique peu traitée par les théories de la narrativité qui est celle d'Etern Ancillary, c'est-à-dire les artifices grâce auxquels le narrateur passe la parole aux différents personnages. Voyons quelle différence il y a entre ces 5 dialogues. Comment vas-tu ?
Pas mal, et toi ?
Comment vas-tu ? Dit Jean.
Pas mal, et toi ? Dit Pierre.
Comment ?
Dit Jean.
Comment vas-tu ?
Et Pierre aussitôt. Pas mal, et toi ?
Comment vas-tu ?
S'empressa Jean.
Pas mal, et toi ?
Ricana Pierre.
Jean dit « Comment vas-tu ? »
« Pas mal, »
répondit Pierre d'une voix incolore. Puis, avec un sourire indéfinissable,
« Et toi ?»
À l'exception des 2 premiers cas, on observe dans les autres ce que l'on définit comme instance de l'énonciation. L'auteur intervient par un commentaire personnel pour suggérer le sens que peuvent prendre les paroles des 2 personnages. Mais une telle intention est-elle vraiment absente des solutions apparemment arides des 2 premiers cas ? Et le lecteur est-il plus libre dans les 2 cas aseptisés ? Ne pourrait-il y subir à son insu une charge émotive, que l'on pense à l'apparente neutralité du dialogue chez Hemingway ? Ou bien est-il plus libre dans les autres cas, où au moins il sait à quel jeu joue l'auteur ? C'est un problème de style. Un problème idéologique, un problème de poésie, autant que le choix d'une rime, d'une assonance ou l'introduction d'un paragraphe. Il s'agit de trouver une certaine cohérence. Peut-être étais-je aidé par le fait que tous les dialogues sont rapportés par Hatzo et que bien évidemment Hatzo impose son point de vue à toute la narration. Les dialogues me posaient aussi un autre problème. Jusqu'à quel point pouvaient-ils être médiévaux ? En d'autres termes, je me rendais compte, à l'écriture, que le livre prenait une structure de mélodrame bouffe, avec de longs récitatifs et d'amples arias. Les arias, la description du portail par exemple, se référaient à la grande rhétorique de l'âge moyen, et là, les modèles ne manquaient pas. Mais les dialogues ? À un moment donné, j'ai craint que les dialogues ne soient de l'Agatha Christie, quand les arias étaient du Suger ou du Saint-Bernard. Je suis allé relire les romans médiévaux, j'entends par là l'épopée chevaleresque, et je me suis aperçu que malgré quelques licences de mon fait, je respectais un usage narratif et poétique qui n'était pas inconnu au Moyen-Âge. Mais la question m'a longtemps harcelé, et je ne suis pas sûr d'avoir résolu ces changements de registre entre aria et récitatif. Un autre problème, l'emboîtement des voix ou instances narratives. Je savais que j'étais en train de raconter, moi, une histoire avec les mots d'un autre, après avoir averti dans la préface que les mots de cet autre avaient été filtrés par au moins 2 autres instances narratives, celle de Mabillon et celle de l'abbé Vallée. Et l'on pouvait bien sûr supposer que ceci avait œuvré en philologue sur un texte non manipulé. Mais qui va croire ça ? Pourtant, le problème se reposait à l'intérieur même de la narration faite à la première personne par Hatzo. Celui-ci raconte, à 80 ans, ce qu'il a vécu à 18 ans. Qui parle ? L'Hatzo de 18 ans ou l'Hatzo octogénaire ? Tous les 2, c'est évident, et c'est voulu. Le jeu consistait à mettre en scène continuellement Atsu vieux qui raconte ce qu'il se rappelle avoir vu et entendu en tant qu'Atsu jeune. Mon modèle, mais je ne suis pas allé relire le livre, de lointains souvenirs me suffisaient, était le Serenus Zeitblom du docteur Faustus. Ce double jeu énonciatif m'a fasciné et terriblement passionné. Parce que, en plus, pour en revenir à ce que je disais sur le masque, en dédoublant Atsu, je dédoublais une fois encore la série de cloisons, d'écrans mis entre moi en tant que personnalité biographique ou moi en tant qu'auteur qui raconte. Je narrateur et les personnages racontés, y compris la voix narrative. Je me sentais toujours plus protégé. Et toute cette expérience m'a rappelé, et j'ai envie de dire charnellement, avec l'évidence d'une madeleine trempée dans du tilleul, certains jeux enfantins sous les couvertures, quand je me sentais comme dans un sous-marin, et que de là je lançais des messages à ma sœur, enfouis sous les couvertures d'un autre lit, tous deux isolés du monde extérieur et totalement libres d'inventer de longues courses au fond des mers silencieuses. Atsu a été très important pour moi. Dès le début, je voulais raconter toute l'histoire, avec ses mystères, ses événements politiques et théologiques, ses ambiguïtés, par la voix de quelqu'un qui traverse les événements, les enregistre avec la fidélité photographique d'un adolescent, mais qui ne les comprend pas, et qui, même vieux, ne les comprendra pas pleinement, si bien qu'il choisira une fuite dans le néant divin qui n'était pas celle que lui avait enseignée son maître. Faire tout comprendre par les mots de quelqu'un qui ne comprend rien. En lisant les critiques, je me rends compte que c'est l'un des aspects du roman qui a le moins impressionné les lecteurs cultivés. Personne ou presque ne l'a relevé. Mais je me demande si cela n'a pas été un des éléments qui a déterminé la lisibilité du roman de la part de lecteurs non érudits. Ils se sont identifiés à l'innocence du narrateur. Ils se sont sentis disculpés quand ils ne comprenaient pas tout. Je les ai renvoyés à leurs émois face au sexe, aux langues inconnues, aux difficultés de la pensée, aux mystères de la vie politique. Ce sont là des choses que je comprends maintenant, après coup. Mais peut-être alors transférais-je sur Atsu nombre de mes émois d'adolescent. Surtout dans ses palpitations d'amour, avec toujours cependant la garantie de pouvoir agir par personne interposée. En effet, Atsu ne vit ses souffrances d'amour qu'à travers les mots que les docteurs de l'Église employaient pour parler de l'amour. L'art, c'est la fuite hors de l'émotion personnelle. Joyce, comme Eliot, me l'avait enseigné. La lutte contre l'émotion fut un combat difficile. J'avais écrit une belle prière modelée sur l'éloge de la nature d'Alain de Lille à mettre dans la bouche de Guillaume à un moment d'émotion. Et puis j'ai compris que nous nous serions émus tous les deux, moi comme auteur et lui comme personnage. Moi en tant qu'auteur, je ne le devais pas pour des raisons de poétique. Lui en tant que personnage, il ne le pouvait pas parce qu'il était fait d'une autre pâte. Et que ses émotions étaient toutes mentales, ou très retenues. J'ai donc éliminé cette page. Après avoir lu le livre, une amie m'a dit « Ma seule objection, c'est que Guillaume n'a jamais un mouvement de pitié. » J'ai rapporté cela à un autre ami qui m'a répondu « C'est bien, c'est cela le style de sa Pietà. » Peut-être en était-il ainsi. Et ainsi soit-il. La prétérition. Atsu m'a servi à résoudre une autre question. J'aurais pu inscrire mon histoire dans un Moyen-Âge où tout le monde sait de quoi on parle. Dans une histoire contemporaine, si un personnage dit que le Vatican n'approuverait pas son divorce, il est inutile d'expliquer ce qu'est le Vatican et pourquoi il n'approuverait pas le divorce. Mais dans un roman historique, il n'en va pas de même. On raconte aussi pour éclairer les contemporains sur ce qui s'est passé et pour dire en quel sens ces événements lointains ont une importance actuelle. On court alors le risque du salgarisme, Les personnages de Salgari fuient dans la forêt, traqués par des ennemis et trébuchent sur une racine de baobab. Et voilà que le narrateur suspend l'action pour nous faire une leçon de botanique sur les baobabs. C'est devenu maintenant un topo plaisant comme les vices d'une personne que l'on a aimée, mais à éviter. J'ai réécrit des centaines de pages pour échapper à cet écueil. Mais je ne me rappelle pas m'être jamais aperçu comment je résolvais le problème. Je m'en suis rendu compte 2 ans après seulement, quand j'essayais de m'expliquer pourquoi le livre était lu aussi par des personnes qui ne pouvaient certes pas aimer des livres si cultivés. Le style narratif d'Atsuo est basé sur cette figure de rhétorique que l'on appelle prétérition. C'est le fameux exemple « Je pourrais vous faire remarquer qu'elle connaissait si bien la beauté des ouvrages de l'esprit, mais pourquoi m'étendre ?» Bossuet. On dit ne pas vouloir parler d'une chose que tout le monde connaît très bien, et en le disant, on parle de cette chose. C'est un peu la façon dont Atsuo fait allusion à des personnages et des événements considérés comme bien connus, tout en parlant. Quant à ces personnages et à ces événements que le lecteur d'Atsuo allemand de la fin du siècle ne pouvait pas connaître parce qu'il avait existé ou s'était produit en Italie au début du siècle, Atsuo n'a aucune réticence à en parler. Et même à le faire sur un ton didactique, parce que tel était le style du chroniqueur médiéval, tant il était désireux d'introduire des notions encyclopédiques chaque fois qu'il nommait quelque chose. Après avoir lu le manuscrit, une amie, pas la même que tout à l'heure, me dit qu'elle avait été frappée par le ton journalistique du récit. Non le ton du roman, mais celui d'un article de l'Espresso. Ce furent ces mots, si ma mémoire est bonne. De prime abord, je le pris assez mal. Puis je compris ce qu'elle avait saisi, mais sans le reconnaître. C'est ainsi que racontent les chroniqueurs de ces siècles. Et si aujourd'hui nous parlons de chroniques, c'est qu'alors on en écrivait beaucoup. Le souffle. Les longs passages didactiques avaient aussi une autre raison d'être. Après avoir lu le manuscrit, mes amis de la maison d'édition me suggérèrent de raccourcir les 100 premières pages, qu'ils trouvaient trop absorbantes et fatigantes. Je n'eus aucune hésitation. Je refusai. Je soutenais que si quelqu'un voulait entrer dans l'abbaye et y vivre 7 jours, il devait en accepter le rythme. S'il n'y arrivait pas, il ne réussirait jamais à lire le livre dans son entier. Donc, les 100 premières pages avaient une fonction pénitentielle et initiatique. Tant pis pour qui n'aimerait pas, il resterait au flanc de la colline. Entrer dans un roman, c'est comme faire une excursion en montagne. Il faut opter pour un souffle, prendre un pas, sinon on s'arrête tout de suite. C'est ce qui se passe en poésie. Et Dieu qu'ils sont insupportables, ces poèmes, dit par des acteurs qui, pour interpréter, ne respectent pas la mesure du vers, font des enjambements récitatifs comme s'ils parlaient en prose, suivant le contenu et non le rythme. Pour lire un poème, en endécasyllabes et tercés, il faut prendre le rythme chanté voulu par le poète. Mieux vaut réciter Dante comme si c'était les rimes des comptines de notre enfance, que de courir à tout prix après le sens. En narrativité, le souffle n'est pas confié aux phrases, mais à des macro-propositions plus amples, à des scansions d'événements. Il est des romans qui respirent comme des gazelles et d'autres comme des baleines ou des éléphants. L'harmonie ne réside pas dans la longueur du souffle, mais dans sa régularité. Et si, à un moment donné, le souffle s'interrompt et qu'un chapitre ou une séquence s'achève avant la fin complète de la respiration, cela peut jouer un rôle très important dans l'économie du récit. Marquer un point de rupture, un coup de théâtre, c'est du moins ce que font les grands auteurs. La malheureuse répondit, point à la ligne, n'a pas le même rythme que « adieu, mon ». Mais quand cela arrive, c'est comme si le beau ciel de Lombardie se couvrait de sang. Un grand roman, c'est celui où l'auteur sait toujours à quel moment accélérer, freiner, comment doser ses coups de frein ou d'accélérateur dans le cadre d'un rythme de fond qui reste constant. En musique, on peut jouer rubato. Mais point trop n'en faut, sinon on en arrive à ces mauvais exécutants qui croient que, pour faire du Chopin, il suffit de forcer sur le rubato. Je ne suis pas en train de dire comment j'ai résolu mes problèmes, mais comment je me les suis posés. Et si je devais dire que je me les posais consciemment, je mentirais. Il y a un esprit de la composition qui pense même à travers le rythme des doigts qui frappent les touches de la machine. Je voudrais donner un exemple de cette idée que raconter, c'est penser avec les doigts. Il est évident que la scène de l'accouplement dans la cuisine est construite tout entière avec des citations de textes religieux, du Cantique des Cantiques à Saint Bernard et Jean de Fécamp, en passant par Saint-Hildegarde de Bingen. Qui n'a pas de pratique de la mystique médiévale, mais un brin d'oreille, s'est au moins aperçu de cela. Cependant, si l'on me demande maintenant de qui sont les citations, où finit l'une et où commence l'autre, je suis dans l'incapacité de le dire. En effet, j'avais des dizaines et des dizaines de fiches avec tous les textes, parfois des pages de livres et des photocopies, beaucoup plus que je n'en ai utilisé par la suite. Mais quand j'ai écrit la scène, je l'ai fait d'un seul jet. Ce n'est qu'après que je l'ai poli, comme si j'y avais passé un vernis homogénéisateur pour atténuer les raccords. Donc, j'écrivais, à côté de moi, j'avais tous les textes épars, et je jetais un coup d'œil tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, copiant un passage, puis le reliant aussitôt à un autre. C'est le chapitre que j'ai, à la première rédaction, écrit le plus rapidement. J'ai compris après que j'essayais de suivre des doigts le rythme de l'accouplement et que par conséquent je ne pouvais m'arrêter pour choisir la bonne citation. Ce qui rendait juste la citation que j'insérais à ce moment-là, c'était le rythme avec lequel je l'insérais. J'écartais des yeux celles qui auraient cassé le rythme de mes doigts. Je ne peux pas dire que la rédaction de l'événement ait duré autant que l'événement, bien qu'il y ait des accouplements très longs. Mais j'ai essayé d'abréger au maximum la différence entre temps de l'accouplement et temps de l'écriture. Et j'entends écriture non pas au sens bartésien, mais bien au sens dactylographique. Je parle de l'écriture comme acte matériel physique. Et je parle de rythme du corps, pas d'émotion. L'émotion, désormais filtrée, existait au tout début, dans ma décision d'assimiler extase mystique et extase érotique, dans le moment où j'avais lu et choisi les textes à utiliser. Après, plus aucune émotion. C'était Hatsu qui faisait l'amour, pas moi. Moi, je devais seulement traduire son émotion dans un jeu d'yeux et de doigts, comme si j'avais décidé de raconter une histoire d'amour en jouant du tambour.